ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme la radio.
Radio Pleine Lune 93.8 Béguer, son de femme Radio Zone. On reprend le micro. Avec dans quelques instants nos nouvelles, suivies des rendez-vous de Marjolaine. Et puis à 19h, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, canicule, le rendez-vous de tous les 15 jours. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 3.8 MHz, nos nouvelles. En Union soviétique, 40 millions de personnes seront bientôt sans emploi. Une explosion sociale en attente. Dans une quinzaine de jours, quelque 36 000 personnes seront privées de leur travail par les mesures d'Eltsine à Moscou. Ils viendront s'ajouter aux 25 000 chômeurs déjà enregistrés dans la capitale soviétique. Qui plus est, le profil du futur sans emploi va accentuer celui de l'actuel chômeur moscovite. Selon le journal Izvestia, les trois quarts des chômeurs moscovites ont une éducation supérieure et la grosse majorité sont des femmes. Or, de nombreuses femmes soviétiques, surtout dans les couches les plus éduquées, élèvent seules un, deux enfants, ce qui donne une allure plus alarmante encore à la nouvelle vague de licenciements. D'autant plus que la plupart des habitants de la capitale poursuivent une activité après la retraite, s'assurant une seconde source de revenus indispensable au maintien de leur niveau de vie. Déjà, plusieurs retraités ont été priés de renoncer volontairement à leur emploi afin de favoriser l'embauche des plus jeunes. Actuellement à Moscou, le revenu de substitution moyen est de 266 roubles, alors que le standard de vie minimum est fixé à plus de 500 roubles, une situation alarmante. Les experts étrangers prévoient d'ailleurs qu'en 1991, l'Union soviétique comptera quelque 40 millions de personnes sans emploi. Certains soviétiques parlent de plus de 10 millions dès l'an prochain. À ce niveau, il n'est pas rare qu'une goutte fasse déborder le vase. La longue marche des Anglaises vers l'égalité des sexes, soutenue par le Premier ministre John Major, 61 des plus grandes sociétés britanniques se sont engagées à accélérer l'égalité des sexes pour d'excellentes raisons économiques. John Major, qui participait à Londres au lancement de l'opération Égalité 2000, a affirmé que l'État, premier employeur du pays, devait donner l'exemple dans l'égalité des sexes. Mais en dépit de ses bonnes paroles, le Premier ministre britannique s'est bien gardé de prendre des mesures contraignantes pour favoriser l'embauche des femmes. Pourtant, elles ne représentent pas même le quart des 40 000 employés du service public. Si la présence de John Major à Égalité 2000 ressemblait fort à une opération de récupération politique en ces temps préélectoraux, le phénomène essentiel n'était pas là, mais bien plutôt dans le fait que les plus grandes entreprises britanniques, comme par exemple Esso, la British Airways ou la BP, se sont engagées pour la première fois à donner leur chance aux femmes à tous les niveaux. Or, celles-ci ont beau représenter 43% de la masse salariale britannique, elles sont largement absentes des postes à responsabilité. Le grand patronat a donc décidé de corriger cet état de fait, non pas pour un sentiment de philanthropie, mais poussé par un froid constat. La chute démographique est en train de créer une situation où les sociétés seront en compétition pour s'arracher un nombre toujours plus réduit de jeunes dotés d'une bonne formation. Les entreprises qui seront capables d'embaucher et de garder les femmes jeunes auront un avantage comparatif. Face à ces données, comment agir? La BBC, par exemple, s'est fixé des objectifs précis. Faire en sorte que d'ici 1996, 40% des cadres moyens soient des femmes, alors qu'il n'y en a aujourd'hui que 18%. Mais la plupart des grands patrons rejettent une approche quantitative, estimant qu'il y a, je cite, des mesures non chiffrables tout aussi importantes, telles que l'introduction d'horaires flexibles et la généralisation des arrêts de travail. Quoi qu'il en soit, une certitude demeure dans la question de l'égalité des sexes. La Grande-Bretagne est aujourd'hui dans le peloton de queue européen. Des recherches montrent que les Anglaises touchent en moyenne 70% des salaires de leurs collègues masculins, soit 10% de moins que dans les autres pays de la communauté. D'autres études faites en Angleterre constatent que seulement 3 ans après avoir fini leurs études, les femmes ont des jobs moins qualifiés, des promotions sociales limitées et des salaires inférieurs aux hommes, à degré de formation équivalente. Sur les 1333 plus grandes sociétés britanniques, il n'y a que 18 directrices. En revanche, les Anglaises assument l'essentiel des tâches non qualifiées. D'autres études révèlent encore que les femmes quittent leur emploi plus fréquemment que les hommes. Pour l'organisatrice de la campagne Égalité 2000, ce rapide tournus est le signe d'un environnement masculin qui jusqu'à présent a été incapable de s'adapter. La présidente dit « Les sociétés sont particulièrement conscientes que les femmes quittent les entreprises, non parce qu'elles veulent avoir des enfants, mais parce que la culture d'entreprise les pousse dehors. » La plupart des féministes restent dubitatives quant à cette campagne Égalité 2000 et attendent de juger sur les faits. Leur attentisme, surtout à l'égard du gouvernement, n'est pas dénué de fondement. Au nom de la souveraineté nationale, le gouvernement britannique a en effet refusé de signer la charte sociale européenne. Or, des mesures visant la protection des femmes enceintes et du temps de travail vont être adoptées sous peu par les 12 Européens, sauf par la Grande-Bretagne. Toujours en Angleterre, la Chambre des Lords vient de reconnaître 250 ans après le viol dans le mariage. C'était le moment. Les Lords siégeant au tribunal de dernière instance ont définitivement rejeté mercredi un principe de la common law britannique vieux de 250 ans selon lequel il ne pouvait y avoir de viol dans le mariage. Les Lords ont approuvé un arrêt rendu en mars dernier par une cour d'appel qui avait elle-même confirmé une condamnation à 3 ans de prison prononcée contre un mari accusé d'avoir violé sa femme dont il était séparé. Penser qu'une femme ne peut pas être violée par son mari est, je cite, une fiction anachronique et choquante, ont estimé les Lords. C'est un jour fantastique pour les femmes dans le monde entier, a de son côté estimé le comité des femmes contre le viol. Cet arrêt des Lords met fin à 250 ans d'esclavage sexuel légal. En Allemagne, polémique autour de la pilule abortive, le RU 486, qui fait reparler du nazisme. La pilule abortive, le RU 486, fabriquée en France par les laboratoires Roussel-Uclaf, est en train de susciter une grande polémique en Allemagne. Détracteurs et défenseurs de la pilule abortive s'affrontent à coups d'arguments massus dont certains sont en relation directe avec le passé nazi du pays. Pour l'instant, Roussel-Uclaf, le laboratoire français, n'a pas déposé de demande de mise en circulation de la pilule abortive en Allemagne. De nombreuses voix, parmi lesquelles plusieurs femmes haut placées des partis démocrates chrétiens, se sont cependant élevées pour que cette pilule soit testée en Allemagne au nom de la liberté de la femme de recourir à ce nouveau moyen contraceptif. Le laboratoire français hésite à commercialiser le RU486 en Allemagne du fait que son principal actionnaire est Höst, le géant allemand de la chimie. Or, cette firme Höst faisait partie avant la fin de la Seconde Guerre mondiale du groupe IG Farben qui avait fabriqué les fameux gaz mortels, le Zyklon B, utilisé dans les camps d'extermination nazis. Selon le magazine Der Spiegel, Höst refuse de commercialiser cette pilule en Allemagne parce que ce groupe n'a aucune envie d'être mêlé à un débat d'ordre moral. Les détracteurs de la pilule abortive ont d'ailleurs menacé Höst de boycotter ses produits au cas où elle serait introduite en Allemagne. En Algérie, le Front du Salut islamique, le FIS, a défilé des dizaines de milliers d'islamistes dans la rue vendredi dernier. Des dizaines de milliers de partisans du Front islamique du Salut sont venus donc de toute l'Algérie pour participer à cette grande manifestation à Alger, la première après la levée de l'état de siège le 29 septembre dernier. Ils agitaient des drapeaux verts et blancs, scandaient des slogans appelant à l'instauration immédiate d'une république islamique. État islamique sans passer par le vote, ni charte ni constitution, mais seulement ce que Dieu et son prophète Mohammed ont dit, criaient notamment les manifestants. Toujours en Algérie, une jeune femme a été lapidée parce qu'elle portait une mini-jupe. Une jeune fille de 17 ans aurait été lapidée vendredi à Liaret, au sud-ouest d'Alger, par une nuée d'enfants encadrés par quelques adultes hystériques pour avoir porté une jupe trop courte. L'opposante birmane Aung San Suu Kyi, qui a reçu le prix Nobel de la paix cette année, a entamé une grève de la faim afin de protester contre les conditions de sa détention. Madame Aung San Suu Kyi est en résidence surveillée quelque part en Birmanie depuis juillet 1989. Les conditions de sa détention ont progressivement empiré, selon le secrétaire général du comité Nobel, Geir Lundestad. En Allemagne, 6% des femmes allemandes sont victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, selon un sondage du Bild am Sonntag. La forme de harcèlement la plus courante est la remarque salace, suivie de la main aux fesses et enfin de la plaisanterie obscène. En France, les seringues en révolte. Les infirmières qui manifestent depuis 5 semaines ont déclenché hier une révolte des seringues qui débouchera jeudi soir sur une nouvelle séance de négociation avec le gouvernement. Le programme de la révolte comprend une série d'actions ponctuelles, cortèges, marathons revendicatifs à Paris, opérations sans hôpitaux bloqués, en prologue à un grand rassemblement unitaire le 7 novembre. Malformation de l'embryon, stérilité, défaut de croissance, la pollution au banc des accusés. La pollution de l'environnement peut être rendue responsable de malformation de l'embryon, de défaut de croissance et des problèmes de stérilité chez certains adultes ou encore des cancers, ont affirmé récemment 60 chercheurs scientifiques de 30 pays réunis par l'OMS à Copenhague. À l'issue d'un séminaire de 5 jours consacré à l'impact de l'environnement sur la reproduction humaine, ces scientifiques ont lancé un cri d'alarme. Les prochaines générations, ont-ils dit, vont être victimes expiatoires de l'environnement pollué d'aujourd'hui. Les malformations de l'embryon sont devenues un problème international dû notamment à la pollution de l'environnement. Les experts ont mis en particulier à l'index le mercure, le plomb, les dioxines, poisons pour la procréation au même titre que l'abus d'alcool, le tabac ou les drogues. D'autres substances, ont-ils ajouté, sont soupçonnées de provoquer des malformations. Ce sont les pesticides, les dissolvants organiques, les hormones synthétiques. À propos des problèmes de stérilité, les scientifiques ont affirmé que les déficiences sur la capacité reproductive commencent déjà au stade embryonnaire, touchant hommes et femmes. On a également relevé que la baisse de la qualité du sperme humain. En effet, au cours de ces dernières décennies, le nombre des spermatozoïdes chez l'homme a progressivement décru et cette tendance va en s'accélérant selon l'analyse d'une cinquantaine d'enquêtes effectuées dans le monde entier sur quelque 15 000 hommes. Entre 10% et 20% des couples dans le monde ont des difficultés à avoir des enfants. En outre, 60% des avortements spontanés sont liés à des défauts chromosomiques et 3% des nouveau-nés sont atteints de différents types de malformations, ont rappelé les chercheurs européens. Leurs recommandations seront débattues lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement en 1992 au Brésil. En Suisse, le projet de loi sur l'égalité entre hommes et femmes serait un plus pour l'économie. Cet avant-projet de loi qui a été évalué par l'Office fédéral de justice, conclusion, l'économie a beaucoup à gagner en supprimant la discrimination salariale dont les femmes font l'objet. Cet avant-projet de loi donc, a été évalué par l'Office fédéral de la justice qui a mis en exergue les effets positifs de cette loi pour l'économie. L'interdiction légale de la discrimination et la protection contre les licenciements n'ont pas pour l'instant été inclus dans l'avant-projet de loi, n'ont été inclus qu'à titre provisoire. Le Conseil fédéral se réservait de les retirer après avoir pris connaissance d'une étude sur leur incidence économique. Pour les auteurs de l'expertise, ces deux mesures se heurtent bien sûr à la résistance des employeurs car elles restreignent leur marge de manœuvre décisionnelle. Toutefois, seules les entreprises qui ont jusqu'à là exploité à leur profit la main-d'œuvre féminine en pratiquant la discrimination subiraient des désavantages économiques. Les comportements discriminatoires à l'égard des femmes aboutissent au contraire à une distorsion de la concurrence au sein d'une branche. À l'échelle macroéconomique également, la balance penche nettement en faveur de l'interdiction de la discrimination. Selon les prédictions des auteurs, basées sur des résultats d'enquête, sur le comportement des femmes dans la vie active, cette interdiction se traduirait par une augmentation du taux d'activité des femmes. L'extension de l'office de main-d'œuvre féminine aurait à son tour pour conséquence de détendre le marché du travail qui reste asséché dans de nombreux secteurs à la recherche de personnel qualifié. La compétitivité internationale serait elle aussi stimulée par la percée des progrès de productivité et par une augmentation de l'efficacité sur le plan macroéconomique. La loi sur l'égalité entre hommes et femmes, et en particulier les deux mesures contestées, serait en outre un important élément d'eurocompatibilité pour la Suisse. Les auteurs de l'expertise estiment par ailleurs qu'il y a très peu de risques que les employés abusent de moyens de droit à disposition eu égard au coût élevé d'un procès. Le rapport entre le coût du procès et le bénéfice potentiel étant défavorable, même pour le salarié réellement discriminé, les associations, par exemple les organisations de femmes et professionnelles, doivent avoir le droit d'agir devant les tribunaux à la place des employés. Toujours l'égalité des salaires, le canton de Soleur met la pression. Les entreprises soleuroises qui ne rémunèrent pas également femmes et hommes ne recevront plus de commandes de l'État. C'est ce qu'exige une motion adoptée par le Parlement cantonal. Le gouvernement, qui reçoit plusieurs centaines d'offres par an, a indiqué qu'il s'efforçait déjà de faire respecter ce principe. Le Conseil fédéral lance un cri aux femmes, soyez patientes. C'était le moment de le dire, hein, vraiment, comme si les femmes suisses n'étaient pas déjà assez patientes. Pas de splitting sur les rangs d'AVS, un message sur l'égalité éventuellement en fin 92 et un projet sur l'assurance maternité peut-être avant 1995. Les femmes qui s'étaient mobilisées lors de la grève du 14 juin sont relativement amères. Nous n'avons pas l'impression que le Conseil fédéral prenne très au sérieux les problèmes des femmes. C'est ce qu'a souligné la secrétaire de l'Union syndicale suisse, Ruth Dreyfus. Les femmes sont particulièrement déçues par le fait qu'un message concernant la loi sur l'égalité des sexes ne devrait pas être soumis au Parlement avant la fin 1992. Elles sont également préoccupées par l'attitude du Conseil fédéral qui ne s'est pas prononcé à propos de l'interdiction du travail de nuit des femmes et le dimanche. Près de 5 mois après la grève nationale, des femmes, 55 représentantes des comités locaux de grève, se sont entretenues lundi pendant 2 heures avec Flavio Cotti et Arnold Koller. Elles ont fait part de leurs exigences sur les questions les plus urgentes et ont tenté d'obtenir des réponses du Conseil fédéral. En ce qui concerne le projet de loi sur l'égalité, le gouvernement soumettra un message au Parlement au plus tôt à la fin de l'année prochaine. Il s'agira d'ailleurs d'une loi unique prévoyant notamment l'interdiction de toute discrimination, la protection contre les licenciements et le reversement du fardeau de la preuve en cas d'inégalité salariale. En revanche, le Conseil fédéral ne tiendra probablement pas compte d'autres revendications des femmes, comme la suppression de la valeur litigieuse de 20 000 francs et le droit pour les organisations syndicales ou féminines de porter plainte pour un employé lésé. En ce qui concerne la révision de l'AVS, les femmes ont tenté de convaincre Flavio Coti que seul le splitting des cotisations assorti de bonifications de prise en charge pourrait conduire à une véritable égalité. Mais selon les représentantes des femmes, Flavio Coti a retorqué que le splitting pourrait entraîner une détérioration de la situation des nombreux rentiers et être mal reçu par le Parlement en raison de la mauvaise santé des finances fédérales. Le Conseil fédéral était en revanche d'accord sur le fait de ne pas augmenter l'âge de la retraite pour les femmes. S'agissant de l'assurance maternité, le Conseil fédéral devra soumettre au Parlement un nouveau projet durant la législature à venir. En parlant d'ailleurs des suites de la grève du 14 juin, pour certaines, la suite a été un peu amère. Ainsi, pour avoir participé à cette grève du 14 juin, une quarantaine d'employés des services sociaux de la ville de Berne ont eu la surprise de découvrir sur leur fiche de paye que cette journée-là ne leur avait pas été payée. Elles ont constaté en ouvrant leur enveloppe de septembre. À Fribourg, environ 30 enseignantes et jardinières d'enfants ont reçu une sévère mise en garde du directeur cantonal de l'instruction publique. En revanche, les choses ont plutôt bien tourné pour les deux employés de l'innovation de Porrentruy qui ont été réengagés après avoir reçu leur lettre de licenciement. À Clotten, dans le canton de Zurich, 10 jardinières d'enfants grévistes ont appris avec soulagement que leur direction renonçait aux réductions de salaire initialement prévues pour ce jour de grève. Élection au Conseil des États dans le canton de Berne, femmes contre femmes pour le deuxième tour. Lénie Robert contre Christine Berli, le deuxième tour des élections bernoises au Conseil des États sera résolument féminin dimanche prochain. Pour la première fois dans le canton, la gauche a réussi à empêcher l'Alliance bourgeoise de placer ses deux candidats au premier tour. Ainsi, l'avocate radicale biennoise Christine Berli affrontera l'ancienne conseillère d'État Lénie Robert, liste libre. Consciente qu'elle représente un minuscule aileron aux États si elle est élue, Lénie Robert n'en est pas moins décidée de défendre des objectifs écologiques et sociaux. Christine Berli s'appuie quant à elle sur le principe d'une politique libérale pour assurer une économie saine. Les deux candidates sont bien décidées à défendre la cause des femmes. Toutes deux s'attacheront à la révision de l'AVS. Christine Berli s'efforcera aussi de défendre les femmes dans la révision du droit de divorce. Lénie Robert travaille de son côté à obtenir la révision de la loi sur l'égalité entre hommes et femmes et elle s'engagera aussi à obtenir la réalisation de l'assurance maternité ainsi que le maintien de l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie. Prostitution enfantine dans le tiers-monde, les Suisses sont concernés et un groupe vient de se créer pour essayer de couper les ailes au tourisme du sexe. Il y a bon nombre de touristes, dont un paquet de Suisses, pour qui vacances exotiques riment avant tout avec exploitation sexuelle. Notamment par peur du sida, ces touristes-là se rabattent de plus en plus sur des enfants pour assouvir leurs fantasmes. En Suisse, plusieurs organisations d'entraide et de coopération au développement s'associent aujourd'hui à une campagne mondiale pour dénoncer ces pratiques et tenter d'y mettre un frein. Achetés pour une somme dérisoire de 40 à 200 francs à leurs parents, contre la promesse de leur trouver une bonne place de travail, des centaines de milliers d'enfants et de jeunes de moins de 16 ans se retrouvent aujourd'hui dans les rues de Bangkok, Manille et de quelques autres grandes villes du sud-est asiatique. Ils sont employés en réalité dans l'industrie de la prostitution. En Thaïlande, par exemple, on estime qu'il existe actuellement 60 000 bordels qui exploitent jusqu'à 2 millions de prostituées, dont 800 millions de moins de 16 ans. On retrouve aussi la prostitution enfantine en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique. C'est la conséquence de l'appauvrissement de larges couches de la population dans le tiers-monde et l'appât du gain sur place des classes favorisées. Mais aussi, d'où la responsabilité des pays industrialisés à tous les touristes qui débarquent dans ces pays par charter entier pour consommer du sexe bon marché. Parmi eux, beaucoup de Suisses. C'est difficile de les chiffrer, mais une étude les estime entre 25 à 30 000 Suisses, au masculin bien sûr, qui se rendent chaque année sous les tropiques pour cette raison. Là. Des démarches ont déjà été faites du côté des agences de voyage pour que cesse la propagande à connotation sexuelle sur le papier glacé de leur catalogue. Mieux, pour que les agences elles-mêmes se chargent de décourager leurs clients aux envies douteuses. Une demande jusqu'ici à moitié satisfaite, la branche s'est dite favorable à une information axée uniquement sur les dangers du sida. Informatique, ouvrir aux femmes. Les femmes ont une autre approche de l'informatique que les hommes. C'est à partir de cette thèse que s'est construit le projet pilote F-Software, encouragé par le canton de Zurich et divers parrains privés à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Initiatrice, Elisabeth Michel Adler et 8 femmes de Zurich, Vienne et Saint-Gall. Radio Pleine Lune, c'était les nouvelles. Dans quelques instants, le quart d'heure lesbien, canicule sur Radio Pleine Lune. Thank you.